On veut une belle soirée, puis on est content que vous soyez là. Mon nom est François Turcotte, je suis directeur de SEMBEC, le séminaire qui est derrière l'initiative des pubs socratiques. Et avec la bonne initiative qu'on a eue de Jean-Christophe Jasmin, qui va être notre leader de panel ce soir, on voulait réfléchir, on voulait faire une introspection et une rétroaction de ce qu'on appelle un réveil au Québec dans les années, fin des années 70, début des années 80. Puis, quels sont les impacts pour l'Église évangélique aujourd'hui? Donc, on veut adresser cette réflexion-là pour voir quelles sont les pistes pratiques avec lesquelles on va pouvoir ressortir. On a plusieurs panélistes avec nous ce soir. Jacob Mathieu, qui est pasteur à l'Église Ecclésia Saint-Jérôme. Merci, Jacob, d'être là. On l'applaudit pour sa participation. On a avec nous aussi Hélène Desjardins. Hélène étudie à la maîtrise en anthropologie, Université de Montréal. Donc, on est content de t'avoir avec nous aussi. On l'applaudit. Benjamin Gagné, qui est étudiant en théologie à l'ETEC. Donc, on est content de t'avoir avec nous aussi. Merci, Benjamin. On a le plus sage ce soir, Louis Bourque. Non, pas sûr, hein? Directeur de l'Association des Églises Baptistes ici au Québec. Donc, merci Louis, on l'applaudit. Votre animateur, Jean-Christophe Jasmin, pasteur à l'Église de Pointe-aux-Trembles. Et puis aussi, on pourrait dire sociologue.
Politicologue peut-être.
Politicologue plus.
Aspirant, bon. Aspirant.
Excellent. Tu vas nous commenter Donald Trump ce soir? Non, c'est pas
non,
ok.
Non. Il y a trop à dire là-dessus.
Un autre sujet. Alors, je veux juste vous dire aussi à l'avance, concernant le mois de novembre, déjà notre conférencier est confirmé pour le pub. Ça va être un chimiste qui a travaillé longtemps en milieu pharmaceutique. Maintenant, il est du côté professoral. Et il va nous parler de toute la notion de l'éthique qu'emmène l'enjeu social au niveau scientifique, au niveau de toute la réflexion des cellules souches. Tout le côté pharmaceutique, tout l'élément de réflexion bioéthique derrière ça. Donc, au mois de novembre, on va d'un côté plus scientifique, mais aussi philosophique avec le côté éthique de la chose. Donc, excusez-moi, je me remets d'un rhume. Donc, je te passe la parole, Jean-Christophe. Vas-y.
Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été nombreux à l'invitation, justement à réfléchir, d'avoir une rétrospective introspective par rapport au réveil évangélique québécois. Je remercie SEMBEC puis François l'opportunité justement de m'avoir permis de choisir le thème puis d'avoir cette discussion-là. Est-ce que le micro est pas correct, c'est ça? Je postillonne. OK, c'est correct. Je pense que c'est important pour n'importe quel groupe, n'importe quelle institution, que ce soit une famille, que ce soit un pays ou que ce soit un mouvement évangélique, d'avoir des moments où ce qu'on peut s'arrêter puis avoir un regard critique sur le passé, de voir qu'est-ce qui s'est fait de bien, qu'est-ce qui s'est fait de moins bien, puis de mieux comprendre notre passé pour savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui puis où est-ce qu'on s'en va. Par rapport à l'Église évangélique au Québec, on sait que le réveil des années 70, ça a été un mouvement de grande effervescence, mais ça a été aussi un mouvement en théorie politique qu'on appelle de violence fondatrice, c'est-à-dire que plusieurs des grands paradigmes du mouvement évangélique se sont mis en place pendant cette période-là et pendant la période d'institutionnalisation qui a eu lieu après. Puis moi, j'ai grandi dans l'Église évangélique. Mes parents sont convertis en 81, je crois. Moi, je suis né en 83. On a grandi à l'Église l'Église des Frères Mennonites de Saint-Laurent, et qui était une église qui avait été fondée par un GBU du Cégep Saint-Laurent. Donc, on a grandi. Puis j'ai invité plusieurs personnes qui sont nées dans les années 80, puis Hélène en 91, donc qui ont grandi de l'autre côté de la vague du réveil évangélique. On a entendu parler du réveil évangélique un peu comme les enfants qui étaient nés dans le pays d'Israël après la conquête, qui avaient entendu parler de leurs parents des grandes merveilles que Dieu avait fait. Puis, je voulais qu'on ait un dialogue ce soir. Donc, vraiment dans l'idée socratique d'avoir, vous allez voir, ça va être vraiment une discussion, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'être en mesure justement de, en vue de d'avoir cette rétrospective, introspective. Donc, je pense que François nous a assez bien introduit, là, donc je ne vais pas repasser par les bios. Il va y avoir, dans le fond, juste différentes phases à la discussion ce soir. La première phase, on veut parler du réveil évangélique comme tel, de revoir un petit peu Louis Bourque va nous servir de mémoire collective aussi comme un des participants puis des acteurs de ce moment-là. Ensuite, on va parler de la période de consolidation, d'institutionnalisation qui a eu lieu à partir des années mi-80 jusqu'à la fin des années 2000, avec tout le monde, dans le fond. D'un côté, ceux qui étaient leaders à cette époque-là, puis ceux qui ont grandi dans l'Église comme enfants pendant cette période-là. Puis, on va terminer par vraiment une réflexion par rapport à où est-ce qu'on est aujourd'hui, quelle est la possibilité d'un réveil futur? Est-ce qu'un réveil futur est même souhaitable? Comment est-ce qu'on peut rejoindre les Québécois d'une manière plus efficace, plus authentique, plus vraie? Donc, on va commencer. C'est bon, Louis?
Ben, ça commence mal parce que nous, on peut pas prendre de bière ici, je comprends bien. Oh,
il fallait commander avant. Mais...
Ah, OK. Parce que ça m'aide à parler un peu. Non. Bien, c'est ça, oui. Moi, je suis un peu le fruit, pas un peu, je suis le fruit de cette époque. Je me suis reconnu comme un enfant de Dieu en 1979 à l'Église catholique. Hein? Pas pire, ça. Je la vive à Noël d'une manière différente. On me parlait de Jésus, on me parlait qu'il était venu pour nous sauver, puis... mon cheminement spirituel progressait et finalement, à la messe de minuit, j'étais là. Puis finalement, je ne suivais pas tellement ce qui se passait en avant. Puis c'est là que j'ai donné ma vie à Dieu, que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Maintenant, ces années-là, c'était des années, on les appelle les années de réveil parce que il y avait deux choses qui caractérisaient vraiment à cette époque-là. La première, c'était nouveau. Puis, c'était aussi avec quelle facilité on pouvait partager le message de l'Évangile avec ceux qui étaient autour de nous, qu'on pouvait leur parler de Dieu. C'était pas quelque chose qui était tabou, c'était pas quelque chose qui était mal vu. Au contraire, les gens étaient. C'était une époque où les gens cherchaient. Ça a suivi un peu la fin... on dit, là, je ne sais même plus si on peut dire ça, là, la grande noirceur ou la révolution tranquille. Mais enfin, la révolution tranquille, ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est vraiment l'idée que les gens, l'Église catholique a perdu son autorité. Puis là, les gens se retrouvaient devant une forme de vide où ils étaient ouverts à toutes sortes de choses autres que l'Église catholique. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas été ouverts juste à l'Évangile, ils ont été ouverts à toutes les philosophies orientales. On a juste à penser aux Beatles, pour ceux qui ont suivi déjà ça, comment ils étaient influencés par, si je ne me trompe pas, c'est l'hindouisme ou quelque chose du monde. Il y avait cette ouverture-là, donc c'était facile. Dans ma famille, qui est une famille catholique traditionnelle, 8 enfants, j'ai pu inviter plusieurs membres de ma famille à l'église, ils sont venus dans des soirées où on partageait l'Évangile. Donc, c'était vraiment facile. Je me souviens aussi, à un moment donné, à l'église, on avait un baptême qui était organisé, puis on avait 22 personnes qui étaient là, qui se faisaient baptiser. C'était impressionnant. Donc, c'était l'ouverture, mais c'était aussi l'immaturité, dans le sens que quand vous vous retrouvez, là, vraiment toute une... Un paquet de croyants comme ça avec aucun arrière-plan évangélique, aucun arrière-plan biblique qui se retrouvent ensemble, leur compréhension qu'ils ont de l'Évangile, ils ont même la difficulté, moi-même quand moi j'ai accepté le Seigneur, là, ma compréhension de l'Évangile, là, c'était pas grand-chose. Là. Mais donc mettez tout ça ensemble, la façon qu'on enseignait, la façon dont on vivait l'Évangile, ça manquait beaucoup de maturité. Donc, c'est pour ça que, bon, on a fait beaucoup d'erreurs. Je me souviens même, moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai repensé à ça en fin de semaine, où j'avais enseigné quelque chose qui est tellement contraire à l'Évangile. J'avais dit, dans l'Église, c'est mieux d'être plus légaliste que d'être plus sous la grâce. Imaginez-vous là comment on pouvait être dans le champ à l'époque. Mais c'était ça. Il n'y avait pas de fondation, pas de formation. J'ai appris ma formation théologique en même temps que j'étais pasteur. Donc, ça caractérisait ces choses-là. L'ouverture à l'Évangile, puis l'immaturité.
Merci pour ce résumé-là. On discutait tantôt aussi comme quoi que il faut se rappeler quand même que le Québec des années 70-80 n'était pas le Québec des années 2010 aussi. Puis c'était d'une certaine façon un réveil ethnique aussi, dans le sens que les églises évangéliques à l'époque, bien que c'était composé de nouveaux croyants, c'était assez linguistiquement, puis... culturellement homogène quand même. Là.
Oui, c'était surtout des Québécois de souche. On n'aime pas ça dire ça, là, parce qu'aujourd'hui, il y a des ethnies qui sont nées au Québec, alors on ne peut plus dire ça. Mais tu as dit aussi quelque chose d'intéressant pendant le souper, que traditionnellement, on dit toujours qu'il y avait des églises anglophones, évangéliques, mais pas de témoignages francophones. Puis là, tu me rappelais qu'il y avait, effectivement, il y avait des présences évangéliques francophones qui étaient présentes là depuis... tu disais une centaine d'années.
Ouais, ouais, ouais.
Maintenant, mais c'était quand même minoritaire. Là. C'était pas. Alors que dans les années 70-80, c'est quelque chose qui s'est répandu pas juste chez les baptistes, mais parmi toutes les dénominations.
Mais quand on imagine le réveil, c'est important, je pense, pour nous les plus jeunes, de se rappeler que tu avais une église, dans le fond, qui était quand même uniforme, puis aussi au niveau générationnel. Là, quand je regarde les photos du réveil, puis de Guy Lavoie, puis. On dirait vraiment une gang de hippies, vraiment à la mode pour l'époque, là, mais c'est comme s'il y aurait des églises remplies de hipsters tout d'un coup. Là. Puis la moyenne d'âge est 20 à 25 ans, personne n'a d'enfants. Puis là, à un moment donné, vous vous ramassez, vous avez un réveil, l'église est là, là c'est comme, ben, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se rencontre? Puis là, il faut acheter une bâtisse, payer une hypothèque, engager un pasteur, puis là, il y a des enfants qui apparaissent de nulle part, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous avez vécu ça aussi d'une manière comme, c'est une surprise pour vous, là. C'était pas comme, hey, on devient l'église évangélique, puis on va avoir des ministères jeunesse écœurants dans 20 ans. Là.
Non, c'est ça, on l'attendait pas, je veux dire, c'était même pas réfléchi, là, tu sais, quand... C'est vraiment un travail, c'est un souffle de l'esprit, c'est le même, je pense, que tu l'as écrit là, dans la publicité. Puis c'est vrai aussi la question des personnes âgées. Tu me rappelles que moi, j'allais faire visiter les églises anglophones pour du soutien pour mon salaire. Puis j'étais impressionné de voir les têtes blanches dans l'église, ce qu'on n'avait pas chez nous. Là, c'est on cherchait d'avoir des personnes... puis même si chez nous, il y avait des têtes blanches, ils n'étaient pas plus matures dans la foi. Dans le sens qu'il n'y avait jamais, ils sont venus à l'Évangile tard dans leur vie, donc il n'y avait pas l'expérience ou la maturité de l'expérience chrétienne. Alors, il y avait comme un office d'influence sur l'Église, mais pas nécessairement de maturité.
De maturité. Donc là, on parle un peu de justement cette période-là. Là, je voudrais me tourner vers nos plus jeunes qui étaient des bébés, des enfants, des ados pendant cette période-là aussi, de comment vous avez perçu l'Église ou connu l'Église de l'autre côté du réveil, tu sais. Un peu comme on partageait au souper de l'expérience chrétienne personnelle aussi que vous nous parliez, tu sais, de la, par rapport au témoignage de conversion, puis... Jacob, t'as de l'après?
Je sais que c'est ça. C'était commun d'entendre des histoires de conversion, souvent assez extraordinaires. Et souvent avec des notions de dire, il y a aussi un salut du péché, mais aussi comme un salut de l'Église catholique. Tu sais, là, enfin, on connaît la vérité, on est à la bonne place. Et ça, c'est très commun. Moi, je me souviens en grandissant comment il y avait les événements d'évangélisation, les croisades de porte à porte, mais je l'entendais ça comme étant petit, là. Mais c'était excitant tout ça, là, tu sais, aujourd'hui l'espoir, et donc c'était une période très excitante. Évangéliser, implanter des églises, on continuait, on était peut-être à la fin de la vague, mais on était encore là.
Mm-hmm. Quand tu étais...
Juste mentionner, quand souvent on pense des fois aux années 70-80, je trouve qu'on a tendance à idéaliser ce qui s'est passé. Tu sais, on embellit ce qui s'est vraiment passé. C'est vrai que c'est passé des choses extraordinaires, mais c'était peut-être pas aussi beau toujours comme on pensait être rose, c'est ça. Puis même toute la question de l'immaturité, comment on implantait des églises. C'était comme des adolescentes qui avaient des bébés. T'sais, on savait pas comment le faire. On portait ça à peu près n'importe comment. Puis on n'était pas capable d'en prendre soin comme il faut. Puis ça a eu des conséquences assez dramatiques pour plein d'implantations sur la façon dont on le fait. Mais c'était excitant, puis c'était nouveau, puis go, on y va.
T'sais. On y va.
Ouais.
Hélène?
Oui, ben moi, j'ai grandi dans l'église aussi, puis mes parents, justement, se sont convertis lors du réveil. Donc, j'entendais leurs histoires, comment ils faisaient du porte-à-porte à l'Université de Montréal, ma mère dans les résidences. Puis, c'est ça. Puis moi, ça m'a toujours un peu surpris parce que c'était une réalité que je chantais qui était un peu différente de ce que moi, je pouvais faire. Mais, veux pas, je me souviens, durant mon secondaire à la jeunesse, même à l'école biblique, notre manière de faire de l'évangélisation ressemblait un peu à ce que j'avais entendu de mes parents. Tu sais, on a fait du porte-à-porte. Pour parler de Dieu, même quand j'étais en Hongrie aussi, c'est ça qu'on faisait. On allait voir les gens dans la rue, puis on était comme, est-ce que tu veux entendre parler de Jésus? Puis ça marchait comme pas tant, ça marchait un peu, mais pas autant que mes parents, puis c'était comme étonnant un peu, puis un peu décevant. Puis là, en tout cas,
c'était ta technique.
Oui, peut-être que je ne me prenais pas bien. Je sais pas, mais c'est ça, c'était un peu différent un peu, puis c'est sûr que ça me faisait me questionner, mais c'est un peu tout ce que j'avais entendu durant mon enfance qui fonctionnait, donc je m'attendais à ce que ça fonctionne aussi.
Il y avait comme un fardeau du réveil d'une certaine façon. Ça, là, de dire, attends, là, comment on y aller? Benjamin?
Puis moi, par rapport à ce que tu disais sur les histoires de conversion, une des choses que je disais tantôt puis que je réalisais, c'est que moi, j'ai jamais eu de date de conversion, fait que ça mettait comme une espèce de pression, je pense, notre génération à essayer de trouver le moment puis être sûr qu'on est sauvé aussi. Là, fait que... On jouait beaucoup autour de ça, tandis que je dirais que mon parcours de foi, c'est des conversions et des changements. Là, c'est
comme tu disais, c'était pas une switch, c'était un dimmer plus dans notre génération, la conversion, l'illumination.
Il y avait même des fois une pensée que vu que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, que je sentais ça de la part des gens qui s'étaient convertis plus tard dans leur vie, que moi j'étais vraiment chanceux parce que tout allait bien, j'étais né dans la parole de Dieu, tu sentais qu'il y avait une incompréhension de ce que moi je vivais en grandissant dans l'église de la part des gens. C'est pas de leur faute, ils pouvaient pas le savoir, c'était quoi là?
Des attentes. Juste, je garoche ça comme ça, on n'a pas parlé tantôt là, mais est-ce que vous vous souvenez les plus jeunes? Parce que pour les plus vieux, il y a vraiment une expérience comme j'en conçois, comme concrète, une décision genre je donne ma vie au Seigneur, je vais me faire baptiser, puis c'est pas normal, tu sais, c'est contre-culturel même. Est-ce que vous vous souvenez du moment comme peut-être enfant ou ado, vous avez catché que c'était pas normal d'être chrétien? Que tu catches, hey, mes amis vont pas à l'église, puis ils me trouvent vraiment bizarre quand je parle de Jésus, puis comment ça, je pensais que tout le monde était comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Mes amis me trouvent encore bizarre.
Ben, c'est sûr que oui, là. Tu sais, moi, j'étais en morale plutôt qu'être en catéchèse. C'est sûr qu'une école à Mascouche, déjà là, c'était plus spécial. Je mangeais des hot dogs au tofu aussi, mais ça c'était d'autres choses. Ça, c'était que j'étais doublement spécial. Rapidement, je le vois. C'est sûr que tu le sens là, que c'est différent. Là.
Mais comme l'expérience d'identité chrétienne est un peu imposée d'une certaine façon, tu sais, ou vient différemment que par rapport au narratif de conversion. T'sais.
Moi, ça s'est surtout fait... Ben, dans le fond, j'ai grandi au primaire, je suis dans une école chrétienne, mais je me suis retrouvée début du secondaire dans une école non chrétienne, puis là, c'était vraiment dans les cours d'enseignement religieux. C'est comme une école catholique, donc c'était quand même enseigné, mais là, je réalisais que j'étais la seule à connaître les histoires, puis la seule à y croire, puis même le professeur, il croyait pas. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions un peu sur le fait que c'était comme pas normal, puis c'était nouveau pour moi.
Moi, c'était plus au secondaire, en déménageant dans le coin de Joliette. Là, c'était une région encore fortement catholique jusqu'à début 2000 à peu près. Fait que moi, je n'étais même pas en morale, j'étais en enseignement protestant et j'étais seul. Donc, j'étais clairement à part des autres. Fait que ça a été pas mal là, ma prise de conscience et tout ça, de dealer avec ça.
On parlait, il y a tellement de thèmes à couvrir en 50 minutes. Là. Ah oui. Justement, ben c'est ça. Comment est-ce que, si on fait un petit peu d'introspective, là, comment est-ce que l'influence du réveil a transformé notre manière de concevoir certains thèmes? T'sais, on parlait tout à l'heure l'idée de la conversion. T'sais, peut-être que le réveil a quand même comme cristallisé une idée de la conversion qui n'était pas propre à notre expérience. Est-ce que vous voyez d'autres thèmes comme ça qui ont tellement été forts dans le réveil, tellement été une expérience commune d'une génération, que pour la génération suivante, c'était comme on était comme pris dans un certain modèle qui n'était pas nécessairement ce que nous, on expérimentait? Puis...
Mais juste notre conception de l'Église. Mm-hmm. Mm-hmm. On a été influencé par des missionnaires anglophones, américains ou canadiens. Donc, eux, ils ont emporté avec eux leur culture de ce que c'est l'Église. Mm-hmm. Puis là, dans la deuxième génération, là, les questionnements sont venus, à savoir, est-ce qu'on veut faire ça comme ça? Est-ce qu'on veut... est-ce que ça nous ressemble? Puis on le fait encore aujourd'hui. Là, on est encore en train de s'interroger sur à quoi ressemble l'Église, tout ça. Mais quand même, ça a été... nous, on ne s'est pas posé de questions. On a suivi le modèle missionnaire. Mais les générations qui ont suivi ont questionné ces modèles-là.
Bien, c'est sûr que c'est ça, le thème de l'évangélisation, puis tout à fait, je suis d'accord aussi, l'Église. Le réveil a eu lieu dans un contexte culturel et générationnel qui est extrêmement différent de celui d'aujourd'hui. Pour ce qui est de l'évangélisation, souvent, j'imagine, je n'étais pas là, mais de ce que mes parents m'ont raconté, c'est comme les gens avec qui ils parlaient prenaient pour acquis qu'il y avait un Dieu, avaient entendu les histoires bibliques. Moi, je parle à mes amis à l'université, puis la plupart ne croient pas qu'il y a un Dieu, la plupart croient en l'évolution. Donc, à cause de ça, je peux pas leur donner un dépliant qui fait juste parler de la grâce, parce qu'ils croient même pas qu'il y a un Dieu, ils croient même pas que Jésus est mort pour eux. Donc, le message de la grâce, oui, reste pertinent, mais il y a tout un travail à faire avant. Il y a aussi un intérêt qui est très grand aujourd'hui pour toutes les idées philosophiques, un désir pour l'intellectuel qui est plus présent, j'ai l'impression. Donc, c'est sûr qu'il y a une approche plus philosophique de discussion, de réflexion, de rationalité aussi dans le message, qui reste vraiment importante pour ce qui est de l'évangélisation. Je pense aussi que c'est important de contextualiser les églises vraiment à la culture pour que lorsque les gens vont prendre le pas d'aller dans une église, ils sentent qu'ils sont quand même au Québec. Ils sentent que ça... Ils sentent chez eux, même si le message, les valeurs vont choquer, c'est normal, mais que dans le fond, ils voient que c'est vraiment contextualisé, que ça se rapporte vraiment à leur vécu et que le message est actuel.
Il y a un effort redoublé d'une certaine façon de contextualisation aujourd'hui.
C'est ça, je l'espère. En fait, je pense que ça commence, puis j'espère que ça va continuer à se développer.
Je ne sais pas qui s'occupe du timing, mais normalement à l'église, il y a quelqu'un qui me met comme des 20 minutes ou des 10 minutes pour me dire que... Parce que moi, je suis là jusqu'à minuit, là. Fait que c'est bon? C'est bon, OK, avertis-moi. Benjamin.
J'avais pas vraiment rien qui me venait en tête, là. Il y avait peut-être l'aspect, une des choses qui, c'était à travers la nostalgie, on était beaucoup déçus que ça se passait plus, en tout cas, ça arrivait plus. Puis la façon qu'on a que je sens que l'Église de ces années-là a voulu reprendre ça en main, ou reprendre ça en contrôle, quelque chose qu'il n'y avait jamais eu en contrôle, d'ailleurs. Mais c'est en mettant l'accent sur le fait qu'on était moins moral ou moins pieux. Fait que, en mettant l'accent là-dessus, on s'est dit, ah, ben, si on prie plus, si on fait plus de réunions de prière, ou je sais pas, s'il y avait plus de monde des réunions de prière, ou s'il y avait plus de l'affaire. Fait qu'on s'est beaucoup jeté sur une espèce de performance personnelle, à place de voir que c'était quelque chose de global. Fait que ça l'aidait à renforcer peut-être des réflexes que je dirais tendance moraliste ou légaliste, même des fois. Là.
Louis, mais moi, je ne suis pas nostalgique pantoute de cette époque-là.
Ça t'a pris combien de temps depuis l'être?
Je ne sais pas. C'est une bonne question, ça, Alexandre. Mais, parce que, premièrement... Benjamin, Alexandre. Oui, c'est ça. Je ne suis pas là. Ça commence par la même lettre. Je dirais que moi, je m'ennuie. Je suis pas nostalgique parce que quand tantôt je parlais de l'immaturité, là, ça a apporté son lot de problèmes. Là. Moi, je trouve les chrétiens plus réfléchis aujourd'hui, plus plus ancré dans les Écritures, plus convaincu ou appuyé sur ce qu'il croit, tout ça. Je trouve ça fantastique pour ça. S'il y a quelque chose que je m'ennuie, c'était l'action de Dieu sur la communauté, sur les Québécois, sur je bénis Dieu pour que l'Évangile perce plus facilement dans les ethnies aujourd'hui. Mais moi, je suis tellement préoccupé par mon peuple de racine, là, ceux que les Québécois qui ont tourné le dos à Dieu, qui ont même arrogant à l'égard de Dieu, ça me bouleverse. Ça, je m'ennuie de ça. Puis je peux ajuster mon message pour mieux les atteindre, mais il y a quelque chose que c'est Dieu qu'il faut qu'il fasse. Que moi, même si je présente mieux l'Évangile, que je contextualise l'Évangile, il y a quelque chose, tu l'as dit, qu'on peut pas créer, qu'on peut pas produire par nous-mêmes. Ça, je m'ennuie que je peux partager l'Évangile puis voir des décisions, beaucoup de décisions. Parce que c'est ça que les hommes ont besoin. C'est ça qui amène, qui conduit vers la vie. Puis s'ils ne font pas ce choix-là, ils font un choix qui conduit vers la mort. Alors ça me préoccupe.
Fait que tu fais que t'es nostalgique du réveil pour les gens qui étaient réveillés, mais pas nécessairement pour le contexte qui était.
Le contexte, non.
J'aimerais ouvrir un peu de questions sur le plancher. Je sais qu'on a un micro
portatif
qui est là, mais. Peut-être de poser la question, ouvrir la question justement à... Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes générations aussi. Yes. Puis aussi des plus vieux, mais de dire comment est-ce que vous avez vécu ce réveil-là comme votre souvenir dans les années 80, 90, puis de dire est-ce qu'il y a des thèmes qui ont été ou des choses que vous dites on a gardé le modèle du réveil ou une manière de concevoir, par exemple, la conversion, une perspective du réveil? Il me reste 48 minutes. Ah, OK, c'est bon. Fait que s'il y a des gens qui... François va passer le micro.
Mais continue un peu.
Oui, dans la...
Moi, je vais continuer à dire des choses. moi, ça me dérange beaucoup, les chrétiens qui sont nostalgiques de cette époque-là ou qui ont des discours qui tiennent semblables à « Ah, oh, c'était le bon temps. Ah, oh, c'était comme ci. Ah, oh, c'était comme ça. » Moi, ça me dérange parce que souvent, ces gens-là qui tiennent ce discours-là, ils réalisent pas que c'est eux qui ont changé. Moi, la journée là où j'ai vraiment donné ma vie à Dieu, là, il y a quelque chose qui a pas changé depuis 35 ans. Il y a ce désir-là de plaire à Dieu, ce désir-là de travailler ma vie, mais ce désir-là d'obéir à Dieu, ce désir-là de partager l'Évangile. Ça brûle tout le temps dans mon cœur, puis souvent, les gens, quand je les entends parler, de dire « Ah, cette époque-là, c'était comme si c'est eux qui ont changé. Ils sont devenus tièdes, sont devenus affectés par la culture, dans la culture du confort, la culture du matérialisme. C'est eux qui ont changé. »
Es-tu en train de dire d'une certaine façon que l'envers de la médaille de concevoir le réveil comme quelque chose que Dieu a fait, puis c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que tout le monde dit... T'sais, pendant des années, c'était difficile, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, comme il y avait un souffle, je pense que les gens qui l'ont vécu parlent qu'il y a eu une action de Dieu. Mais l'envers de la médaille de ça, c'était de se déresponsabiliser aussi par rapport à sa propre tiédeur ou par rapport à son propre engagement.
Ben oui, parce que là, c'est comme si rendre l'Église responsable. Mm-hmm. L'Église, c'est nous autres. Mm-hmm. Alors, c'est eux qui ont changé. C'est eux, comme on parlait tantôt, l'Évangile, c'est plus nouveau. À l'époque, c'était nouveau. Hein. Quand moi, je donnais ma vie à Dieu, là, j'avais jamais connu ça. Là. Pour moi, commencer à lire la Bible, là, c'était de la révolution, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, mais avec les années, bon, on a entendu, puis là, là, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là, tu sais, ils disent pas ça avec leur bouche, mais ils le vivent comme ça. Puis je veux pas généraliser pour tout le monde, mais je veux juste dire que on n'a pas à être nostalgique d'une époque. Jésus, il est vivant, il est encore vivant aujourd'hui. Ouais. Puis on peut vivre quelque chose de vraiment fantastique avec Jésus, même encore aujourd'hui, même s'il n'y a pas cette ouverture-là qui est autour de nous.
Pour vous autres, par rapport à tout le temps, quelque chose, Jacob?
Oui,
Ben là, je sais pas si c'est quelqu'un qui veut parler.
Il y a quelqu'un qui veut
Michel
parler.
Mathieu, un bébé boomer.
Moi, je voulais juste poser. Lève-toi. Clairement, là, ouais, bon.
Lève-toi.
Non, mais.
Lève-toi.
Plus proche, bon. Debout.
Debout.
Pas nécessaire. Louis, tu parles de nostalgie, puis j'entends le propos, puis en même temps, je me pose beaucoup de... Merci, non, mais bon, veux-tu le tenir? Ce que je me demande, c'est est-ce que notre génération, la nôtre, est-ce qu'on a créé des stigmates qui font que est-ce qu'on a vraiment ouvert la porte pour la génération qui vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a semé à travers notre culture? Tu parles de la tiédeur, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on aurait créé dans notre culture, dans notre façon, dans notre immaturité peut-être, ou dans notre désir de créer quelque chose, est-ce qu'on a mis des choses qui viennent bloquer l'avancement de l'Évangile? Je sais que c'est une grosse question, mais je me pose des questions dans notre culture évangélique. Je le vois, tu sais, M. Beach, tu te souviens, nous avait dit, oh, vous êtes bon pour faire des... créer des habitudes, hein, des rituels. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait reconnaître, qu'on a semées, qui sont malsaines, qui sont
ce stériles? N'est pas le sujet de ce soir. Non.
Oh, oui, non, c'est justement le sujet de ce soir.
Non, c'est dans les... est-ce qu'il te devance?
Non, c'est bon, c'est là. On est dans la partie réveil, puis la période de...
Ben, ça va un peu dans ce que je disais tantôt, quand dans notre immaturité, dans notre incompréhension de ce que c'est l'Évangile, j'aime super Sola pour ça, parce que ça nous ramène l'Évangile à la bonne place, tout ça. On a créé des bons petits chrétiens à la chaîne, on a créé des générations légalistes au début. On a été maladroits. Je le disais tantôt, j'ai prêché... J'ai dit que c'était mieux d'être plus légaliste que plus sous la garde. Imaginez-vous, là, je regrette tellement, mais c'est là qu'on était. Puis aussi, ce qu'on a réalisé dans notre discussion, c'est qu'on a perdu une partie d'une génération. La génération de ceux qui étaient à 8, 10, 12 ans, quand les parents sont venus à l'Évangile, cette génération-là, on l'a perdue. La génération de mes enfants les plus vieux. On a perdu beaucoup d'enfants de l'âge de Marjolaine, de Jean-Sébastien, qui n'ont pas été attirés par l'Évangile parce qu'on n'était pas attirants, malheureusement. Donc, notre incompréhension de l'Évangile n'a pas aidé pour amener ça plus loin. Ouais.
Si je peux me permettre d'ajouter, je dirais que ce n'était pas des choses nécessairement qui ont été mal faites ou qui ont bloqué. Mais je pense qu'il y a certaines traditions qui ont parti. Puis nous, en tant que jeunes, je ressens vraiment... Bien, dans ma génération, je ressens une soif d'authenticité. Je la vois aussi dans ma société. Puis je pense qu'en tant que jeunes, on veut faire quelque chose qui nous appartient, qu'on sait qu'il va fonctionner parce qu'on est des experts de notre culture, on est des experts de notre génération, parce qu'on en fait partie. Puis des fois, on a tendance justement à suivre les traditions qui nous ont précédées, de suivre ce qui a été fait. On sait que ça a marché, on se dit peut-être que ça va marcher. Mais cette soif-là d'authenticité, je crois, de nous pousser à être capable de sortir de ça et de faire, dans le fond, ce qu'on croit qui va fonctionner dans notre contexte.
Bien, en partant de ce que tu viens de dire, soif d'authenticité, c'est sûr que moi, mettons, en ayant implanté une église à Saint-Jérôme, là, souvent quand quelqu'un de la génération boomer arrivait à l'église puis découvrait puis était comme excité, bien, une des premières questions, c'est quoi le comité d'évangélisation? C'est quoi les événements d'évangélisation qu'il y a ici, tu sais? Puis là, quand je disais, on n'a pas vraiment de comité d'évangélisation parce que tout ce qu'on fait, c'est pour être en lien avec les gens de notre culture de toutes les façons possibles. Mais il n'y avait pas de catégorie pour comprendre ça souvent. Puis c'est pas pour dire que je le fais bien ou qu'on le fait bien nécessairement, mais c'était comme évangélisation rimait avec un événement ou un message. Et souvent, au niveau de la culture, c'est plus l'idée de on se retire de la culture ou on est en contradiction avec la culture, donc on veut s'échapper à la culture québécoise. C'était vu. Aujourd'hui, on dit ça, mettons, on veut rejoindre notre culture, mais on n'entendait jamais ça avant. Là. c'était plutôt comme on rejette notre culture.
Notre culture, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ou aimer la culture québécoise, c'est-à-dire
oui,
avoir
oui,
de
oui.
l'amour pour cette culture-là.
Oui, parce que on voulait choquant. S'y échapper de la culture. Donc, il y avait aussi avec ça une grande, je trouve, une grande emphase pour dire que chaque chrétien, tu parlais de piété personnelle tantôt, puis de moralité personnelle aussi. Souvent, c'était vu comme un chrétien, un bon chrétien, ben, il fume pas, il boit pas, ou il boit pas trop, en tout cas, il fait attention à sa sexualité, il paye ses impôts, puis un peu d'attitude. Mais comment une transformation de vie, comment passer à travers émotionnellement quelque chose, comment s'engager au niveau social, il y avait un grand vide, je trouve.
Je vais essayer de synthétiser ou dans la dialectique de qu'est-ce qu'on dit ici, amener une synthèse, peut-être qu'il y a pas, il y aurait peut-être pas cette idée-là, justement, de dire, il y avait une recherche d'authenticité à l'époque du réveil, puis, tu sais, qui était évidente, mais les conditions que le réveil, qu'est-ce que le réveil a fait, puis a généré comme excitation, ça s'est transformé peut-être dans cette période-là comme un idéal à reproduire, mais qui était plus jamais atteignable pour comme une quinzaine ou une vingtaine d'années, puis, l'authenticité qui aurait mis au monde ce réveil-là, ou en tout cas qui faisait partie de cette condition de naissance-là, a été remplacée dans un formalisme qui idéalisait un moment que nous, on n'a pas connu même. T'sais, est-ce que ça serait une lecture que vous trouvez appropriée par rapport à ça? Ou?
Mais pour moi, c'est clairement plus la nostalgie du réveil qui a été problématique. Là. Mm-hmm. Le réveil, tu parles d'authenticité... Il y en avait clairement, là, je veux dire, c'est une évidence, on n'est pas exceptionnel, je pense, à ce niveau-là, dans notre génération. Là. Je pense qu'il y a peut-être un recontact avec ce besoin-là, mais ça l'existait à l'époque, parce que j'ai l'impression que le problème, c'était vraiment cette nostalgie-là accablante, puis écrasante un peu. Là. Ben, on s'en rendait peut-être pas compte en le disant, mais... Je pense pour la génération qui se préparait, ça créait des barèmes absolument inatteignables.
On avait une autre question du plancher.
Donc, moi, je viens d'une famille non chrétienne, à proprement dite, on peut dire ça. Puis, moi, ça fait 4 ans que je suis converti. Puis, l'impact aussi que je vois, dans le fond, c'est la performance du chrétien. C'est comme si, dans le fond, le passé a tellement été effervescent que maintenant, dans le fond, vu que c'est plus actuel, vu que dans le fond, on n'a plus le même impact au niveau du témoignage, mais dans le fond, il faut que maintenant, pareil, on performe. Mais dans le fond, c'est tellement une pression inutile qu'on a vraiment sur la jeune communauté chrétienne que ça bloque le zèle, dans le fond, que Dieu nous donne. Tu sais, c'est ça qui est malheureux. Mais je pense, en tout cas, que d'avoir tout le monde ici, dans le fond, c'est comme... comment je pourrais dire ça? C'est encourageant de voir ça, dans le fond, qu'on se questionne, qu'on se dise, bon... On a eu des choses dans le passé, dans le fond, qui nous ont aidé à grandir, comme je peux dire. Puis maintenant, actuellement, dans le fond, faut arrêter. Puis dans le fond, se dire que... Dans le fond, j'ai un cheminement personnel à faire, dans le fond. Ouais. Pas de se mettre de pression, de dire, ben faut que je fasse comme ci, faut que je prie plus, faut que je fasse plus d'action. Ben j'ai pas assez témoigné. C'est ça qui est difficile, dans le fond. C'est comme si, vu qu'on n'a plus le réveil, ben là, il faudrait qu'on fasse... à place de Dieu.
Ouais,
en tout cas, c'est ça que je vois
c'est
pas
super
mal.
Ouais, c'est super intéressant comme perspective aussi de dire tu es dans la génération de ceux qui sont grandis après le réveil, mais tu n'es pas de ceux qui ont grandi dans le réveil aussi. Ça donne un regard un peu extérieur. Puis c'est vrai, dans le fond, quand on regarde dans la Bible, t'as eu un réveil à Jérusalem ou... Puis on dirait, Paul, il est pas en train de... Comme tu n'entends jamais ce discours-là dans la Bible, de dire, hey, attends, là, comment ça se fait qu'on n'a plus les conversions qu'on avait à Jérusalem? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Faut prier plus ou quoi que ce soit? T'as comme... Est-ce que le réveil, justement, n'aurait pas fait de la piété comme un moyen en vue de, plutôt que de simplement la recherche simple et authentique d'une relation avec Dieu? Je sais pas si...
Ben, juste pour terminer, dans le fond, c'est comme, mettons, au niveau catholique, ben, basic, c'est les œuvres.
Ouais.
Mais... On a eu comme là, au niveau, mettons, protestant, les branches, comme de performance chrétienne.
Ouais.
Tu sais, là, les œuvres, dans le fond, je vais être sauvé par mes œuvres, mais là, c'est la performance. Mais là, si tu performes, là, les gens vont être sauvés, mais ça ne marche pas de même pas en tout.
C'est vrai. La fin des œuvres est plus notre salut, mais c'est quand même le salut par les œuvres. C'est juste le salut des autres par nos œuvres.
Oui, puis non, dans le sens que... On ouvrait la bouche bien plus d'un sens, ouais. Tu comprends? Moi, je regarde ma vie, je suis bien plus introverti en ce qui concerne ma foi que je l'étais à l'époque, là. C'est pas que les gens ils sont pas encore à la recherche de spiritualité aujourd'hui, il y en a, mais on souvent on n'ouvre pas la bouche. Moi, je pense qu'on a peur du rejet, puis ça a quand même une incidence sur pour l'avancement du royaume parce que on est silencieux. Il y a des Québécois qui sont ouverts à l'Évangile, il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui, ça.
Ben, juste répondre, moi je te dirais, moi j'ai eu plus le sentiment aujourd'hui que je suis libre parce que j'ai plus les attentes, mes attentes du réveil en tout cas ont tombé, les attentes de, aussitôt que j'ouvre la bouche, il se passe une conversion où t'as quelqu'un qui est proche, t'es comme il y a deux pas là, tu sais, puis là on a juste appris pour la réunion prochaine de prière, puis c'est fait là, tu sais, on n'a pas cette pression-là, mais cette pression-là, moi, en tout cas, je sentais que je la portais dans mon témoignage ou dans mon approche avec les autres personnes. Fait que ça, en tout cas, je n'ai même pas tout le dos là-dessus, là, mais je sens qu'il y avait comme un gros élément où s'il n'y avait rien qui se passait, mais même s'il y avait des super bonnes discussions, s'il n'y a pas de conversion, ben, ça ne servait à rien. Fait que tu ramasses tes efforts, puis... Tu t'assures de faire des bonnes shots la prochaine fois. Là, je sais pas.
Il y avait une autre question.
Oui, je suis ici.
Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre pour le micro après. Oui.
C'est bon.
Oh, c'est juste qu'on a la lumière.
Non, c'est beau.
J'entends une voix, mais je
suis juste ici. dans le fond, on parle de réveil. Puis moi, quand je pense au réveil, je pense même pas tant que ça aux non-croyants. Je pense surtout au réveil dans l'Église. Il me semble, puis peut-être que je veux savoir vos impressions, vos commentaires là-dessus, mais il me semble que le réveil doit commencer par des gens à l'Église que ça fait 20 ans qu'ils viennent, puis qui ont vraiment carrément perdu leur premier amour. Puis il me semble que s'il y a vraiment un réveil auprès de ces personnes-là, là, on va peut-être goûter un réveil culturel, ouais. Un réveil provincial. Mais il me semble que... Des fois, quand je pense réveil, je pense pas tant à comment atteindre ceux à l'extérieur autant que ceux à l'intérieur qui connaissent l'Évangile depuis si longtemps.
C'est vraiment intéressant comme remarque. Puis on parlait un petit peu plus tôt comment que le réveil a transformé notre rapport avec l'Église, tu sais, l'histoire de l'Église au Québec. Moi, je viens d'une famille d'Église, justement, l'Union des Églises Baptistes, où c'est des Suisses qui, dans les années 1830, ont implanté les premières églises francophones au Québec. Puis on parlait après ça de comment le réveil des années 70 a cristallisé certains concepts. Puis c'est vrai que quand tu regardes dans le revivalism, tout le discours sur les réveils, l'étude des réveils d'une certaine façon. Je veux dire, aux États-Unis, on parle du Third Great Awakening, puis à chaque fois qu'on parle de réveil, on parle de l'Église qui est déjà là, puis il y a un mouvement de profonde repentance, puis un mouvement de prière, puis c'est vraiment comme au sein de l'Église que ce réveil-là s'opère. Mais dans notre discours du réveil des années 70, on dirait qu'il y a une idée d'un réveil sans Église.
C'est ça qui est spécial. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on attendait. Il n'y en avait pas. Je me souviens de nos vieux missionnaires qui disaient les seuls moments qu'il y avait une communion fraternelle, c'était au téléphone avec un chrétien qui était un autre missionnaire qui était à 100 000 de là où ils étaient. Tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est Dieu qui l'a fait. Là. Tu peux pas le créer. Puis même tantôt, on discutait comment est-ce qu'on l'a laissé tomber. Mm-hmm. Mais tu peux pas laisser tomber quelque chose que tu n'as pas créé, tu sais. Mais donc, c'est faut que ce soit l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qu'on peut maintenant. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Mais quand on parle de réveil, on parle de quelque chose de. Tu parlais de Jérusalem, là, 3000 personnes qui se convertissent au premier discours de Pierre. Là. Il y a quelque chose de.
Mais je vois quand même comme un double. Il y a comme deux dimensions au commentaire de David.
Oui,
David.
C'est bon, David.
Que moi je vois, d'un côté c'est notre rapport à l'histoire, dans le sens c'est pas vrai qu'il n'y avait pas d'église à cette époque-là, t'sais, il y en avait peu, mais il y avait quand même une église qui était là, une église autochtone d'une certaine façon, puis on a des témoignages d'églises ou de communautés ou de collèges chrétiens qui existaient, la mission de la Grande Ligne à Pointe-aux-Trembles ou quoi que ce soit, Puis de l'autre côté, notre conception aujourd'hui du réveil, tu sais, de dire que ça passe vraiment, c'est quelque chose qui s'opère comme en marge ou en parallèle à l'Église, quand dans le fond, c'est vrai que c'est faux d'une certaine façon. L'histoire des réveils nous dit que ça commence tout le temps par un mouvement de quasiment de reconversion à l'intérieur de l'Église, tu sais, de repentance. Je sais pas qu'est-ce que c'est, peut-être notre anthropologue, si c'est quelque chose à
Oui, ben, je ne sais pas exactement si j'ai quelque chose à ajouter à ça. C'est sûr que, ben, c'est ça. Je suis prise un peu à l'époque. mais oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que oui, ça prend, comme David disait, c'est ça que ça prend de l'intérieur. Mais ça l'a grandi. Puis je pense que c'est justement ce désir-là vraiment de cristalliser qui est peut-être un peu bloqué. Mais c'est ça, là, je me pars un peu. Okay. Là, mais, ouais.
Mais en même temps, de l'intérieur, oui, puis sans dire qu'il y avait déjà une église évangélique très établie, mais tu avais, même parmi le Québec catholique, tu avais des gens qui avaient une foi en Dieu quand même.
Oui.
Et
oui.
qui ont, je pense, découvert le salut personnel, tu sais, de découvrir Dieu dans une relation personnelle versus on est tous nés catholiques, on est tous, tu sais, dans l'Église. Ça a été révolutionnaire. Donc, en tout cas, je sais pas si on peut parler d'intérieur, là, mais...
C'est quand même intéressant, cette idée-là de... Moi, j'ai grandi, j'ai souvent entendu le discours comme « Ah, ben c'est quasiment impossible qu'un catholique soit sauvé, tu sais, quand... » Moi, en tout cas, de mon expérience, de ma lecture de l'histoire de l'Église ou de certains auteurs catholiques, t'es comme, ben, écoute, si lui, il a pas une connaissance évangélique du salut, moi, je fais dur, là, tu sais.
Il faut comprendre, souvent, ces commentaires-là sont donnés quand ils sont persécutés. Il y a vraiment les chrétiens qui ont été persécutés, malades.
Oui, tu comprends?
Puis, eux, le contraste entre le curé qui contrôlait le village, puis qui disait de ne pas lire la Bible. Tu comprends? Souvent, ces gens, c'est pour ça qu'il y avait des commentaires comme ceux-là, parce que c'est le seul contexte dans lequel ils étaient. Là.
Oui, mais la question à se poser, ce serait peut-être, est-ce que, puis là, c'est Dieu pourra répondre là, à cette question-là, là, Dieu seul le sait, mais dans le sens que serait-ce possible que le réveil évangélique ait commencé dans l'Église catholique, tu sais, au sein de catholiques chrétiens qui avaient une soif d'une relation renouvelée avec Dieu, que ça, mais il n'y avait pas cet espace-là ou les formes d'expression d'une telle... Puis quand les évangéliques sont arrivés, ben, il y avait déjà une moisson qui était prête, mais qui a eu quelques années. Peut-être nos frères et sœurs plus âgés pourraient commenter là-dessus.
Il y avait quelqu'un là-bas, mais on peut aller ici si tu parles pas.
Salut!
Oui.
Je m'appelle Marc, ici, qui est d'une génération avant cette génération-là, qui a connu Seigneur, puis si on va encore plus loin, il y a eu Chili, tout ça, il y a eu des mouvements, le réveil, c'est pas quelque chose qui est arrivé une fois.
C'est ça, oui.
Ça vient de loin, puis ça arrive pour toujours. Mm-hmm. Heureusement, ça va revenir encore. Mm-hmm. Mais comment ça a été, comment ça a pris forme, il y a eu des gens qui étaient des solitaires ici au Québec, qui ont fait ce travail-là, qui ont prié ardemment. En équipe, des gens qui sont venus de l'Ontario ici, comme Jean-Claude, il y avait des équipes qui priaient, mm-hmm. Les églises sont faites, qui priaient, tout ça. Puis encore aujourd'hui, ils désirent nous voir. Mm-hmm. À travers l'Expo 67, il y avait des mouvements déjà.
Oui, un peu underground avant, mais.
Si je peux me permettre de citer avant. Je pense aussi que la Révolution tranquille, c'était un contexte qui était vraiment propice à ça, dans le sens qu'il y avait une ouverture plus grande vers d'autres idéologies, vers d'autres religions. Donc, c'était vraiment plus juste l'Église catholique. Là, c'était une ouverture vers autre chose. Puis, le message de l'Évangile, c'était présenté par l'Église évangélique, c'était autre chose. Puis, c'était intéressant.
C'est la perte de confiance aveugle envers les institutions. Ça. Question de...
C'est pas vraiment une...
Ou commentaire, observation.
Hey, c'est gênant, ça.
Ah, ouais.
Mais dans le fond, avec le peu d'expérience que j'ai de vie chrétienne, comme mon père est chrétien, mais pas ma mère, j'ai tout le temps vécu chez ma mère, mais je me demande, comme pour ma part, quand je posais des questions sur les croyances de mon père, c'était tout le temps, il y avait la réponse parfaite, mais aucune explication qu'il y avait avec. Genre. Mm-hmm. Il voulait que je croie en ça, mais je pouvais pas poser des questions. Puis il n'y avait pas une sorte de raisonnement. Puis ça m'a comme suivi. Puis je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je sais qu'avec mon papa, justement, qui s'est converti dans les années 80, ben moi, c'est ça que j'ai reçu comme bagage en étant son enfant. C'est il y a toutes les réponses parfaites, mais il n'y a pas nécessairement de pourquoi, de profondeur dans son cheminement. Il a appris les réponses, ils sont dans la Bible, alors c'est vrai. Crois à ça. Mais à un moment donné, moi, en tant qu'enfant, j'avais des questions, j'avais des raisonnements. En plus, ma mère était comme, « Ouais, mais Jeanne, mais pourquoi? » Et maintenant, la façon que je partage le plus ma foi, c'est en questionnant mes amis sur eux. Puis eux, comme quand je parle avec eux, ben, ils ont mille et une questions, mais je sais pourquoi je fais les choses, pourquoi Jésus me le demande, genre. Puis, en tout cas, dans ma courte vie chrétienne, c'est ce que j'ai vu qu'il n'y avait pas nécessairement dans ce temps-là, que je crois qu'on a soif maintenant en tant que jeune société, en tant que notre génération, d'avoir des raisons pourquoi on fait les choses. Pas juste qu'on fait ces choses-là, mais pourquoi.
Ça revient un petit peu à qu'est-ce qu'on, quand on parle de l'après-réveil, une certaine consolidation qui aurait passé par une forme de d'un côté de dogmatisme, puisque tu dis il y avait une grande immaturité, Steve aussi, quand on parle de réveil, une grande immaturité des modes, des courants pseudo-théologiques ou quoi que ce soit. Puis j'imagine il y a eu une. Les pasteurs, à un moment donné, ont dû dire, ben, tu sais, je me souviens du cours de grande doctrine de Sembeck à l'époque, tu sais, qui était quand même comme, ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, au moins, il y a comme une règle où se fier pour, tu sais, pas virer d'un bord puis de l'autre ou quoi que ce soit. Mais, toi, tu partages comment que, comme, d'un point de vue d'un enfant qui grandit dans l'Église, ben, les réponses toutes faites, il y a une recherche d'authenticité. Tu sais,
les enfants de ceux qui ont connu le réveil ont été au cégep, à l'université. Ça, là, oui. Donc, ils ont commencé à... Ils réfléchissaient. Là, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, entre l'immaturité de cette époque-là et les années qui ont suivi, où on était capable de réfléchir, de penser, d'expliquer, de contextualiser, bien là, c'est fantastique.
Tu rattachais un petit peu à cette idée-là qu'on parlait tout à l'heure de le changement démographique de l'Église évangélique dans les années 70 puis celle-là dans les années 2010, c'est pas juste plus juste des Québécois de souche dans le début de la vingtaine, mais c'est aussi des Québécois plus éduqués que la génération de leurs parents, puis oui. qui ont été élevés dans un monde où ce que ben tout le monde qui croit pas les mêmes affaires que toi, t'es été entraîné à tout questionner, puis là d'avoir une génération ou des gens qui ont passé, pas tout le monde, mais que certains ont passé à travers une formation chrétienne qui est assez dogmatique dans le sens classique du terme, ça crée une certaine cassure.
Je serais intéressé de voir la différence entre, d'une manière démographique, où les familles chrétiennes, puis ceux qui étaient non chrétiennes, non croyantes, même au niveau en termes de scolarisation. Si ça a eu même un impact sur de créer des enfants, d'avoir des enfants qui vont plus se scolariser, que l'Évangile, c'est un impact de l'Évangile dans ces familles-là. Je serais vraiment curieux de voir ça.
Ben, il y a d'autres études là-dessus quand même,
oui, c'est que ça.
Dans d'autres pays, là, mais la sociologie est fondée sur justement ces différences entre les protestants et les catholiques en Allemagne. Là, donc, oui. Y a-t-il d'autres questions, commentaires, réflexions? Peut-être que votre hamster il court dans votre tête et vous dites ça n'a pas besoin d'être une question ou quelque chose de parfaitement formulé.
Ouais, ben c'est en partie une question. Moi personnellement, j'ai des amis à Montréal qui dans la dernière année ont grandi dans une église évangélique, une église pentecôtiste ou baptiste. Puis au travail justement de la dernière année, ils sont genre devenus catholiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté l'église évangélique protestante, puis ils sont devenus catholiques. Puis ça, vous en avez parlé un peu, le concept du catholicisme, comme étant, tu sais, il y a des préjugés par rapport à, ouais, c'est ça, ils sont pas sauvés, puis tout ça. Mais est-ce que ça se pourrait que, dans le catholicisme, prochainement, il pourrait avoir un réveil, justement, on parle, tu sais, j'entends, tu sais, je suis pas trop connecté à ce qui se passe dans les médias québécois par rapport à ça, mais j'entends quand même une espèce de... On parle d'une culture, on a peur de ça, puis la religion catholique, nécessairement, fait partie de ça, puis c'est un petit peu un retour aux souches, peut-être, par rapport à ça. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un réveil chrétien catholique? Et puis, si oui, ben c'est ça. Puis une autre, deuxième question, c'est... est-ce que vous voyez que c'est encore possible dans l'Église évangélique qu'il y ait un nouveau réveil, tout ça? Parce que personnellement, tu sais, au travers de mon vécu, tout ça, je suis pas certain, mais je veux juste savoir votre opinion par rapport à ça.
Moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire. J'ai lu beaucoup de textes récemment dans le cadre de mes recherches pour ma maîtrise. Portant sur un réveil justement au niveau des catholiques, quelque chose que je remarquais qui ressortait beaucoup de ces textes-là, c'est qu'il y a beaucoup des valeurs et du message au sein de l'Église catholique qui a été modifié. Par exemple, il y a une église qui est devenue très, très populaire. C'est en fait une église catholique qui est dans le village, ici à Montréal, puis le prêtre fait beaucoup, beaucoup de mariages homosexuels. Et puis là, cette église-là est devenue très, très fréquentée. Donc, je ne veux pas dire que la seule raison pour laquelle il y aurait plus de gens dans les églises catholiques, si réellement il y a un réveil, c'est dû à un changement de message et de valeur. Mais je pense que c'est quelque chose qui se produit au sein de l'Église catholique. Et donc, oui, ça attire les gens parce que ce qui choquait n'est plus là. Mais je pense que par rapport à ça, c'est sûr que nous, en tant qu'Église évangélique, ce qui est au centre, c'est notre message, le message de l'Évangile. Les valeurs sont basées sur la Bible, donc on ne sera pas prêt à changer ça. Je pense que c'est important, puis je pense que c'est une richesse qu'on a. Donc, je pense que pour cette raison-là, c'est ça, on voit peut-être quelque chose qui se passe là-bas, mais c'est peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons, là.
Mais moi, si je peux contrebalancer ça, c'est une bonne réflexion. Puis moi, personnellement, quand j'ai grandi à l'église de Mascouche, puis je pense que quand j'avais 16, 17, 18 ans, inconsciemment, là, j'avais l'impression que on était beaucoup appelés à aller dans l'action de servir, d'évangéliser, etc., de lire notre Bible, d'être pieux. Mais quand je suis allé à l'école publique, j'ai découvert plein d'auteurs catholiques, justement, mes années 1400, 1500, même Saint-Jean de la Croix, etc. Puis là, j'ai découvert toute une richesse de vie, de contemplation de Dieu qui donnait beaucoup de profondeur à l'action tout le temps. Puis je trouve que si on parle de réveil... par rapport au catholicisme, une des choses quand on parle d'authenticité, nous on a notre bâtiment d'église à Saint-Jean, mais juste à côté de la cathédrale à Saint-Jean qui est énorme là, et qui est assez majestueuse. Puis j'ai au moins deux ou trois personnes qui nous disaient, ben des fois avant d'aller à Ecclesia, tu sais, on va faire un tour à la cathédrale parce que c'est grandiose, il y a quelque chose qui nous connecte à Dieu. Bon, est-ce que je suis d'accord nécessairement avec, mais il y a une recherche en tout cas d'expérience, je trouve que autant la génération du réveil, moi ce que j'admire surtout, c'est que ils ont eu la crainte de Dieu, mais encore la crainte de Dieu, je trouve, puis ils ont cru que Dieu est absolument, est absolu, je sais pas comment dire ça là, mais que notre péché est absolu, puis que son salut est absolu, puis ça donne la motivation de prêcher, puis d'aller dans l'action. Puis il faut pas perdre ça, mais en même temps, ma génération recherche peut-être plus une expérience authentique. Que veut pas l'aspect sensoriel d'être dans une bâtisse catholique, de vivre une expérience où est-ce que c'est très solennel, la lecture de la parole de Dieu, que où est-ce que c'est plus vraiment rationnel, c'est plus qu'est-ce qui se produit, tu sais, spirituellement, je sais pas comment dire, ouais, en tout cas, là, dans mon expérience. Puis, je me dis que, je trouve, ben, je vais dire une dernière chose, ok, si tu me permets. Je trouve que la jeune génération, c'est facile pour nous de critiquer ce que nos parents ont fait ou de dire que bon, c'était tout le temps la même chose. J'inviterais pas mon ami dans une église comme ça parce que ça les rejoint moins. Mais quand ça revient à nous autres de faire quelque chose pour notre génération, on fait la même affaire que nos parents. Pourtant, eux autres, ils savaient pas quoi faire, ok? Ils savaient pas quoi faire. Puis je les admire pour ça. Ils sont arrivés avec qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On fait, ok, on fait un déjeuner avec un témoignage, puis il y a un band qui joue du gospel, puis tu sais, ils faisaient n'importe quoi, là, ok? Ah ouais. Mais ils faisaient
parce
de tout leur cœur.
Parce
qu'eux,
ils ont grandi dans la messe en latin, puis là, t'as le déjeuner de l'espoir, c'est quand même révolutionnaire ou innovateur.
Eh ben, mais là, ouais, c'était très radical. Ouais, ben, ils faisaient plein de choses radicales, puis je trouve que nous, on a comme, marchait pas, mais on sait pas trop quoi faire. Tu sais, j'inviterais pas mon ami ici, mais je sais pas plus quoi faire, mais il nous manque le risk taking, la hardiesse de dire, garde, go, là, on le fait, là. Tu sais, tu dis, on est des experts de notre culture. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher pour dire on va créer une expérience authentique ensemble, faire quelque chose qui va nous amener vers Dieu, vers la parole de Dieu, mais d'une façon qui est vraiment intense. Mais souvent, on n'a pas... On est paresseux.
Ouais.
Tiens,
ouais.
Réagissez donc à ça.
Mais on a on réagit souvent. Quand à l'époque du réveil, on a rejeté l'Église catholique.
Ouais,
hein?
Ouais.
On voulait certainement pas reproduire tout le côté cérémonieux, mystique qu'on avait dans l'Église catholique, dans l'Église évangélique. Mais j'ai entendu, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais beaucoup de la nouvelle génération aujourd'hui est à la recherche un peu de ce côté solennel ou ce côté cérémonial contemplatif que on va voir dans les anglicans, dans les évangéliques, comme si dans nos églises, nous, on essaie de rejoindre la culture, mais dans le fond, c'est comme on passe à côté, là.
Dans Christianity Today, il parlait dernièrement comment que chez les protestants évangéliques aux États-Unis aussi, que d'avoir grandi dans l'église, tu sais, avec les machines à boucan, puis les spectacles laser, puis toute l'équipe, il y a comme dans des approches plus liturgiques, peut-être, la confiance que t'es pas en train de te faire manipuler, tu sais, puis qu'il y a quelque chose de... Mais je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, la question touche beaucoup, il y a deux affaires. D'un côté, la question de la possibilité d'un réveil chez les catholiques, c'est sûr, on peut pas se prononcer vraiment là-dessus ici, mais si je veux faire du surf sur la question...
Est-ce que Dieu peut le faire?
Ben oui, certainement, parce qu'il l'a fait à travers l'histoire à plusieurs reprises. Mais le rapport de la nouvelle génération avec le catholicisme est quand même très différent, dans le sens que c'est quasiment comme, écoute, tu sais, pour reprendre l'analogie du réveil comme l'Exode, là, mais il y avait vraiment cette idée-là, là, de dire, moi, la génération de mes parents, c'est comme nous étions en esclavage dans le catholicisme, puis, tu sais, on est sortis, puis Dieu a fait des miracles, puis là, ben, vous êtes nés de l'autre bord dans le désert, puis il s'est rien passé, tu sais. Mais notre rapport, nous, au catholicisme, est beaucoup moins antagoniste, d'une certaine façon.
Juste par rapport à ce que tu dis, puis toute la discussion, si vous pourriez écouter, vous avez écouté le reportage, s'appelle Alléluia. C'est trois jeunes qui deviennent moines franciscains, je pense, ou quelque chose comme ça.
OK.
Puis, en tout cas, c'est juste la portée, là. Allez écouter ça, trouvez ça pour de vrai. Juste voir, c'est pas une question de valeur plus lousse, pas du tout.
Mm-hmm.
Même une grosse critique sur même leur propre prêtrise en arrière. Là, fait que, je trouve qu'on ne s'est pas intéressé du tout, mais en tout cas, on se pose des questions là, mais on ne s'est pas du tout intéressé à savoir s'il y a eu un réveil en même temps que nous dans les mouvements catholiques. Je sais qu'il y avait des mouvements de lecture de Bible. Ma grand-mère a participé beaucoup à ça. Je trouve qu'elle a une foi très vivante, même si ça s'est fait dire que vu qu'elle n'était pas d'un baptiste, c'est ça, un grand enfer. Mais malgré tout... Je trouve qu'on s'est pas intéressé à savoir ce qui se passait, puis on se pose encore presque pas la question. Là, ça pose à distance, mais ce serait bien de comme faire le pas d'engagement puis d'aller voir les communautés là, qui sont en effervescence, justement. Là. Il y a de la littérature là, récemment même qui s'écrit d'un milieu. L'Université Laval, là, le campus théologique, c'est une augmentation des inscriptions, ce qu'il n'y a pas dans toutes les autres universités. C'est un campus catholique.
Ce qui est quand même... Dans le fond, on est passé d'un certain catholicisme culturel. Je pense, moi, dans ce que j'entends parler de mes parents quand ils étaient catholiques, ils disaient les cloches sonnaient le dimanche matin, puis le monde descendait dans la rue, puis tout le monde allait à l'église. Puis il y avait vraiment comme une mode d'une certaine façon. Puis en l'espace de quoi, 3-4 ans, les taux de participation ont baissé de peut-être des 70%, des choses comme ça. Il faut dire que les catholiques qui restent pratiquants aujourd'hui, c'est un peu comme... Tu sais, il y en a eu des modes dans la vie, là, des pattes d'éléphant, mais quelqu'un qui porte des pattes d'éléphant aujourd'hui, il est convaincu de son affaire, là, quand même, tu sais. Mais deux questions, oui. Puis moi, comme juste partager ça comme pasteur, je trouve ça drôle, parce que moi, j'ai pas grandi...
Les pattes d'éléphant, puis le réveil.
Ouais.
OK.
Comme pasteur, je trouve ça drôle, parce que moi-même, je suis attiré par... il y a une réappropriation du christianisme historique, d'une certaine façon. T'sais. Puis, on a des catéchismes protestants, les catéchismes de Heidelberg, quoi que ce soit. Mais moi, à l'Église, à chaque fois que j'essaye d'amener quelque chose d'un peu plus liturgique, une confession de foi,
une affirmation peut-être dans le catéchisme ou une réponse ou quoi que ce soit, ou lire la parole ensemble, ceux qui ont connu le catholicisme sont encore allergiques à ça. T'sais. Pourquoi qu'on fait ça? On faisait ça dans le catholicisme. C'est quoi cette affaire-là? Puis les plus jeunes sont encore... C'était cool. Ça fait du bien. On a deux questions, on me dit.
Oui, un commentaire par rapport aux catholiques aussi. C'est cool parce qu'il y a des communautés vraiment hot sur l'île de Montréal, si ça vous intéresse. Puis rencontrer nos frères et sœurs en Christ qui sont vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Puis des réunions vraiment différentes de ce qu'on est habitué à voir dans les églises catholiques. Je pense à une assemblée juste au nord de Henri Bourassa, à la station, genre, puis sur le bord de l'eau, c'est vraiment beau. Puis ta question par rapport aux catholiques, tu sais, puis depuis tantôt, je vous entends parler comme si le réveil est arrivé de nulle part, genre, comme si, il est arrivé quelque chose. Je sais pas si, tu sais, moi, mon grand-père, il me parle de, tu sais, dans les années 20, quand il allait, 30, quand il allait à jeunesse, tu sais, c'est là qu'il a rencontré grand-mère, la jeunesse, puis il allait à l'église, tu sais, puis of course, I'm an English person, so that's why. Puis je me demande si vraiment, le Québec, en tant que francophone, on va prendre cette flamme-là, puis où est-ce qu'on va l'amener sur notre deuxième génération, notre troisième génération, parce que là, on parle des enfants du réveil, tu sais. Moi, j'ai 30 ans, mes parents, ils sont de l'âge des gens qui se sont convertis dans les années 80, mais par contre, eux autres, ils ont grandi, tu sais, dans les églises anglophones du Québec ou de l'Ouest du Canada, peu importe. Puis, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, puis qu'est-ce qu'on va faire pour rejoindre notre culture qui est catholique, comme tu l'as dit, qui est... dans le fond, c'était ça. C'est quoi le futur, genre? Qu'est-ce que nous autres, on va faire quand nous autres, on va come to age? Genre, comme quand nous autres, on s'est joints à la famille, les Français. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour les gens qui vont nous suivre, tu sais?
On s'est beaucoup entendu aussi sur... C'est là qu'on veut finir la soirée aussi dans cette réflexion-là, tu sais, de dire, bon, OK, le réveil, now what? Là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, par contre, le point de vue, tu sais, des Anglais ici, c'est vrai que tu as comme un... Tu sais, sociologiquement, tu as comme un genre de control group, d'une certaine façon, des gens qui ont pas vécu le réveil de la même façon, mais qui étaient au Québec, tu sais, dans la même période. Tu sais, tu peux faire une étude comparative intéressante quand même. Me laisse 10 minutes. Mais oui, mais now what, là, maintenant, là, tu sais, de dire, là, comme, OK, c'est bon, on a eu le réveil, c'est beau, on est les enfants du réveil, c'est beau, il y a eu tout ça, mais maintenant, comment qu'on va rejoindre, là, notre génération, puis, ouais?
Ben, juste, okay, c'est drôle, parce que moi aussi, je fais quelque chose par rapport à une église que j'ai vue dans l'Ouest dernièrement, puis c'est juste un petit commentaire quand même comique. J'ai parlé avec un monsieur là-bas, puis je lui parlais de l'église au Québec, puis il m'a dit, faudrait qu'on envoie un missionnaire, tu sais. Puis là, j'étais avec une amie, elle dit, ouais, il faudrait juste qu'il parle en français, tu sais, ça serait un minimum. J'ai juste trouvé ça vraiment, tu sais, c'est un Canadien, c'est un Albertain, tu sais. Puis lui, il voit le Québec comme, ils sont vraiment perdus au Québec, tu sais. Puis ça a juste fait encore plus ma réflexion, puis mon problème, ma difficulté, ma réflexion là-dessus, c'est... Tu sais, moi, j'ai mes amis non-chrétiens qui je parlais à l'école de ma foi ou de ce que je vivais comme chrétienne, c'était... je sentais une profonde confusion de vie. Tu sais, ils ne savent pas où se lancer. Il y a comme un... c'est comme une recherche de recherche. Puis moi, je trouve ça dur, comme dans ma génération, comment est-ce que moi, je cherche dans la foi chrétienne... où me placer, puis comme vous dites, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Tu sais, je sais pas comment... Tu sais, j'ai fait E, là, à l'église de Terrebonne, Mascouche, puis je comprenais pas... Je me disais, ouais, mais c'est une affaire des années 60, là, ça colle plus. Puis c'est vrai que ça colle plus, mais même moi-même, dans mon église aujourd'hui, je suis une église, dans le moment, à l'église du Plateau, c'est toutes des jeunes, c'est comme au cœur de Montréal, mais... On n'a pas de formation d'évangélisation parce que, comme Jacob disait, c'est plus la même game. On est dans un autre contexte. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de... dans notre société, c'est une confusion. Puis pas juste un rejet de la foi, mais une espèce de recherche nonchalante, comme « boah, whatever ». Puis comme c'est dur d'embarquer dans des conversations ou de... Même en tant que chrétien, de se dire « OK, mais... » où est-ce que je devrais chercher? C'est quoi mon témoignage ou c'est quoi mon approche avec les gens? T'sais? Puis est-ce que on devrait-tu demander à un Canadien anglais de venir évangéliser? Ça ferait-tu quelque chose? T'sais? En tout cas.
Ouais.
peux-tu réagir?
Vas-y, réagis.
Non, faudrait pas qu'il vienne. Non, mais personnellement, il a le droit, on va lui faire écouter du sirop d'érable. Il y en a lui aussi. Fait que, moi j'ai l'impression, là, comme par rapport à ce que tu dis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme. C'est un peu fini le temps où ce qu'on parlait du moment où on se convertissait ou quoi. Je pense que une des grosses forces qu'on devrait développer, c'est d'être capable de parler de notre foi maintenant dans le très concret, là, dans le très. Puis peut-être qu'on se pose pas tant la question parce qu'on est à l'extérieur de nous-mêmes, on est en train de regarder ces autres, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils devraient vivre, les autres chrétiens ou les autres pas chrétiens. J'ai l'impression qu'il y a comme, un parcours intérieur très profond à faire. Fait que ça, c'est comme le volet personnel. Puis de l'autre côté, côté évangélisation, mais moi, je dirais plus comme les jeunes devraient embrasser les études universitaires. En tout cas, pour certains, ceux qui se sentent appelés à ça puis qui se sentent intéressés, comme quelque chose de beau, de positif, dans lequel ils vont pouvoir être chrétiens. Puis ça peut s'arrêter. Dans un sens, ça peut s'arrêter là aussi. Là.
Oui. Okay. Mais une petite question. Je ne sais pas, les jeunes, avez-vous pensé d'aller évangéliser les vieux? Parce que les vieux, ils croient en Dieu, puis ils croient Jésus, puis ils croient beaucoup de choses. Les catholiques, ils ont une croyance. Il y en a qui ont tout rejeté parce qu'ils ont rejeté Dieu. Mais quand on leur parle de Dieu, puis quand des jeunes... Moi, j'ai fait E.E., puis il y avait un jeune de 18 ans, je pense... Puis on arrivait à trois dans une pièce, là. Et puis, même mon jeune, il était assis par terre. Puis, les jeunes, il y avait trois, quatre personnes âgées qui étaient toutes émerveillées de l'entendre. Alors, moi, je me demande si, en tout cas, ça serait un projet, là, pour les jeunes. Parce qu'ils sont ouverts. Ils ont rejeté, ils disent, oh, tu ne me feras pas changer de religion. Mais ils sont bien intéressés à entendre l'Évangile. Ouais.
Je pense que si on peut... Je pense que les trois dernières questions se recoupent un petit peu de dire comment est-ce qu'on va continuer à être évangélique, à annoncer l'Évangile à la génération présente, à la génération qui vient. Puis ensemble, entre générations, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé comme bon, les boomers, ce que vous avez vécu, nous, ce qu'on a vécu, mais madame nous rappelle que les vieux peuvent continuer à parler aux jeunes, puis les jeunes aux vieux. Il n'y avait pas une chanson évangélique là, avec des lai-lai-lai qui nous parlaient quand...
C'est ça la solution.
Mais vraiment, c'est tellement bon. Hein? On la fera après, OK? On terminera là-dessus. On peut pas passer à côté. Mais... c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Plus d'intergénération? Tu partageais tout à l'heure de l'effort collectif aussi qu'il y a là-dedans, Benjamin.
Moi, j'aimais bien aimé ce que tu as dit, Benjamin, d'être... je me rappelle plus comment tu l'as dit, puis je m'excuse si je te le déforme, là. Mais le cheminement intérieur personnel, puis aussi d'accepter qu'on est là où est-ce qu'on est. Tu sais, tantôt tu disais, mon cher ami qui était là que la performance ou essayer de produire quelque chose, ben gars, on est rendu là, on l'accepte, puis on le vit ensemble. On cherche Dieu, même si c'est assez des fois on vit du chaos en même temps dedans, là, mais on continue à chercher Dieu. J'ai pas grand chose d'extraordinaire que je viens de dire là, mais c'est ça. Mais peut-être une autre chose aussi,
back to basics.
Oui, back to basics, mais aussi. Tu sais, d'essayer de passer par-dessus le malaise, là, de dire que, là, on a vécu ça, là, maintenant, c'est plutôt, ben non, on va y aller du mieux qu'on peut. Mais aussi, pareil, dans tous les réveils, ça a commencé quand la parole de Dieu prend se révèle dans tout son sens, dans toute sa beauté. Donc, je dirais juste qu'on continue à méditer la parole de Dieu comme étant porteuse de vie. Et que ce soit dans le cadre d'avoir réfléchi dans une des études universitaires, puis d'avoir travaillé notre pensée, que ce soit juste personnellement de la savourer, je pense quand même que ça va être un élément essentiel. Ouais.
Merci.
Moi, je vois vraiment comme une richesse le fait qu'on a justement ces deux générations-là. On a la génération qui a vécu le réveil, qui a une grande foi que c'est possible parce qu'ils l'ont vu arriver. Moi, j'ai entendu que c'est arrivé, mais des fois, j'ai de la misère à y croire parce que j'ai jamais vu comme plein de monde se convertir en même temps. Fait que là, on a cette génération-là qui y croit, qui voit grand. Puis on a nous qui connaissons notre culture, connaissons un peu qu'est-ce qui marche, connaissons des jeunes aussi. Puis, je pense qu'en mettant ça ensemble, là, il y a possibilité de faire quelque chose de grand. Puis, je pense que c'est important, justement, comme Jacob disait, d'être courageux puis de foncer pour des choses qui sont nouvelles. Puis, on sait pas si ça va marcher, mais on l'espère. Mais je pense que c'est important aussi de garder en tête que, tu sais, c'est pas juste 1 plus 2 égale 3. Genre, si on fait ça, si on a leur vision, puis si on fait ça de cette manière-là, ça va fonctionner. Mais de juste se dire, c'est Dieu qui est derrière ça. Puis, si on t'est dit qu'il y a un réveil, il va en avoir un, puis il va nous utiliser. Puis, garder en tête que c'est pas notre performance qui va faire un réveil, mais que c'est vraiment l'œuvre de Dieu.
Ouais. Un dernier mot, Benjamin?
Oui, bien, je faisais un commentaire tantôt, mais c'est ça. Des fois, il y a des choses, même actuellement, dans notre mouvement là, qui peut nous exciter. On parlait de l'évangile au centre. C'est des bonnes choses, mais je sens, exemple, un discours comme ça, c'est, tout le monde commence à l'avoir aux lèvres. On commence à perdre le sens de ça. Ça devient hermétique aussi comme discours. C'est très étanche et on se concentre pas beaucoup après ça. Il y a comme un gouffre. Moi, j'ai vécu des belles choses à travers ce discours-là, mettons l'évangile au centre. Puis là, j'étais convaincu là, que ça allait genre vraiment faire la différence. Puis finalement, juste que la première fois que j'en ai parlé où j'ai juste essayé de verbaliser ça, j'ai réalisé que j'avais encore tout le travail d'être un Québécois là-dedans, ma foi, là-dedans. Là. Fait que, puis, on va faire.
C'est pour d'autres personnes?
Pour des gens qui sont en dehors de l'Église. Il y a une passion qui est là, qui se vit, mais il n'y en a pas les mots. Puis, on va faire ça en gang, j'ai l'impression, c'est ça. Il n'y aura pas de super-héros, là. Ça va être quelque chose, un effort collectif. Puis, il faut trouver des bons mots pour nous.
C'est pas un gars dans son sol qui va avoir l'idée géniale de comment est-ce qu'on communique l'Évangile comme du monde aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Ouais.
Une chanson.
Avec des rêves.
L'Évangile, c'est quelque chose qui est vivant. Puis oui, j'aime ça aussi ce que tu disais, garder la parole de Dieu là, centrale, tout ça. Notre authenticité dans notre cheminement, dans notre foi, tout ça. Mais c'est comme, moi je pense à 2 Chroniques 7-14 quand il dit « si mon peuple ». Si mon peuple, ça commence par le peuple de Dieu, ça commence par ma vie, ça commence par moi. Tu sais, je peux pointer l'Église, je peux pointer... les chrétiens, je peux pointer pasteur, mais ma vie, moi, je prie pour ma vie, que je sois passionné de Dieu, puis que ce soit authentique, puis que ça l'ait, ça déborde, puis ça touche mes voisins, puis ça touche mon désir d'ouvrir la bouche. Puis l'Évangile, là, c'est ce qui se répand le plus dans le monde actuellement, mais dans les pays persécutés, dans les pays communistes, dans toutes sortes de conditions, sauf dans les pays occidentaux. Il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose de sûr, Dieu peut encore faire des miracles, puis je vais le croire de tout mon cœur.
Je veux dire un commentaire par rapport à ce qu'il t'a dit, Jacob, tantôt. Ça va mêler aussi avec ce que Louis a dit, là. Dans le fond, c'est sûr que moi, je prie pour que je puisse voir un réveil d'ici ma fin.
Ton endormissement.
Ouais. Mais je trouve ça dur d'être satisfait de ce qu'on fait en ce moment. Quand on parle que c'est des âmes perdues, c'est ça que je trouve difficile d'être comme, OK, ben, tu sais, on fait du mieux qu'on peut, puis tu sais, on va trouver éventuellement. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de gens dans l'Église qui aient une soif que l'Évangile soit répandu. Je parle pas de faire les erreurs qui étaient faites dans le passé, mais je pense juste que d'avoir le fardeau du réveil passé, je pense que c'est quelque chose que, selon moi, il faut cultiver pour aller vers de quoi. Parce que comme ta soeur a dit tantôt, je sais que moi, mon évangélisation personnelle avec mes chums pas chrétiens, ça marche pas bien. Ça fait 30 ans que ça marche pas bien. Mm-hmm. Fait qu'il y a quelque chose que moi, je cherche encore, que je cherche, je me questionne, je prie. C'est sûr que c'est Dieu qui touche le cœur, c'est lui qui va commencer la job, mais il y a de quoi autant que quand que Louis te dit tantôt que quand il y a eu le réveil au début, il y avait de l'immaturité, ben maintenant encore, il y a encore, je pense qu'on est plus proche des Écritures, OK, oui, on va comprendre les deuxièmes et les troisièmes niveaux peut-être, mais il y a encore un autre angle mort, je trouve, qu'on n'a pas pour aller percer puis montrer dans le fond la gloire de Dieu aux gens qui n'en ont pas de besoin. C'est ça, dans le fond, mes chums, ils n'en ont pas de besoin. Ça va bien, leur vie. Là. Et souvent, je pense que ma vie est pire que la leur. Fait que pourquoi ils voudraient avoir Dieu? Fait que c'est juste ça que je trouvais difficile, d'être satisfait.
Oui, on a cette espèce de cri-là en dedans de nous, là, de cette soif. Écoute, merci. Hein, on les applaudit. Deux, trois choses que je vais dire parce que j'aime parler aussi. Mais une des choses que je m'aperçois, c'est que la génération de mon âge a manqué un peu dans les églises. Tu as parlé de ça un petit peu, tu as dit « Oups, on a manqué les premiers enfants ». Et ça, c'est triste parce que c'est comme il y a un saut. Et des fois, c'est dur à rattraper. Mais le Seigneur est au-delà des sauts et des bons à faire pour refaire son œuvre au Québec. Puis on se réjouit. On en cherche des gars, des filles au Québec qui veulent oser quelque chose. Hein. Comme leader parmi mouvement évangélique dans ma tribu, dans ta tribu, on en cherche des gens qui veulent oser quelque chose et puis faire. Et puis on encourage les idées, les naissances d'idées, les projets et toutes les initiatives qui peut-être, si on le fait en gang, on va être plus fort que tout seul. Et ça, moi, j'ai hâte de vous voir vous lever, ceux qui sont plus jeunes que moi, de vous voir vous lever puis d'essayer quelque chose. Et si vous vous faites critiquer, mais c'est pas grave, continuez. On a toujours été tout le temps critiqués dès qu'on fait quelque chose. Même Jésus a été critiqué. Mais s'il se passe quelque chose, si Dieu, dans sa grâce, refait un réveil chez les catholiques au Québec dans les prochaines années, gloire à Dieu s'il le fait. Mais je remarque une chose, quand il l'a fait, en tout cas au temps de Luther, quand il était de l'intérieur, il a voulu confronter la doctrine officielle de son Église. Et peut-être que ça aussi, ça va être une marque qu'il se passe quelque chose de peut-être solide de ce côté-là. C'est quand ils vont être prêts non seulement à vivre quelque chose au niveau personnel, mais de confronter aussi ce qui est les dogmes qui sont écrits puis qui doivent être révisés, à mon avis, selon la parole de Dieu. Alors, merci encore une fois. Et puis, on peut continuer à parler. Les pubs sont là pour ça. Vous pouvez retourner chercher d'autres choses à boire si vous avez soif. Je vous invite en novembre, ça va être lundi le 14, je crois, lundi le 14 novembre, ici au pub. Et là, on va vraiment aller dans le monde de l'éthique et de la science et de voir quelles sont les implications pour le croyant aujourd'hui face à tout ce qui s'en vient au niveau de possibilités médicales. Alors, je vous invite à venir inviter, s'il y a des gens qui sont concernés par la question, invitez-les. Vous êtes les bienvenus pour les pubs. Merci à tous ceux qui organisent, qui travaillent fort. Merci à Benoît, à la technique. Et puis, à la prochaine!